Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et on est ensemble pour débattre des coups de cœur, des coups de gueule qui vont nous emmener ce matin sur pas mal de débats. Patricia Balme, bonjour, présidente fondatrice de PBcom International, bonjour.
Bonjour Valérie.
Aurélien Véron, conseiller de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris, bonjour à vous. Jérôme Dubus, bonjour, vous êtes membre de
bonjour
La République
Valérie.
En Marche, bonjour. Et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard.
Bonjour Valérie.
Et votre dernier livre, en tout cas celui que vous avez coordonné, « Dessine-moi un pangolin », est paru aux éditions du Diable Vauvert. On va parler d'Edouard Philippe ce matin, qui est un petit peu partout sur les plateaux de télévision avec son camarade dont le nom m'échappe, Gilles Boyer. Gilles Boyer pour promouvoir un livre. Moi, j'avoue, je ne comprends pas tout ce qu'il dit, donc je suis cash avec vous. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas son discours, je ne comprends pas où il veut en venir, mais la question à quoi joue Edouard Philippe. En tout cas, on sent que 2022 est en ligne de mire. 70% des Français ensuite pensent que la délinquance a augmenté ces derniers mois. Qu'en pensez-vous? C'est un sondage IFOP Fiducial pour Sud Radio. Et on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Peut-être qu'on peut commencer, je ne sais pas, j'ai l'embarras du choix, parce que tous les sujets de vos coups de cœur et de vos coups de gueule sont des sujets qui peuvent faire débat. Bah, Jérôme, commençons avec vous. Pour la quatrième journée consécutive.
On en a déjà parlé, mais comme ça feuilletonne, c'est l'affaire Chalençon M6, comme on a eu un nouveau communiqué de M6, la Société des journalistes hier, qui est d'ailleurs très ambigu. Moi, je trouve que c'est absolument invraisemblable la manière dont tout ça a été traité. Bon, d'abord, on a cette uluberlue de Chalençon qui dit tout et son contraire depuis 4 jours. Et puis surtout, on a ce communiqué hier de M6 donc sur cette affaire de restaurant clandestin, enfin en tout cas sur l'affaire Chalençon, qui m'étonne parce que j'ai bien lu le communiqué et les journalistes qui ont fait cette enquête, donc qui ont visionné et qui ont filmé à caméra cachée, ce que je trouve d'ailleurs assez limite comme procédé, mais enfin bon, ça se fait en matière journalistique. Dans ce communiqué, les journalistes de M6 nous disent hier, on va poursuivre nos investigations. Or, moi, j'ai toujours appris qu'en matière de journalisme, on faisait d'abord des investigations et après, on révélait ce qu'on avait trouvé. Et bien là, c'est l'inverse. On révèle d'abord ce qu'on a trouvé et après, on continue l'enquête. Je trouve ça journalistiquement épouvantable.
Alors, ce n'est pas une enquête. Hein, c'est quelqu'un qui était masqué, qui était Pierre-Jean Chalençon en l'occurrence, qui disait « Oui, mais moi, j'ai vu des ministres. » Donc, enfin, je ne veux pas les défendre, mais c'est une personne qui... Alors, effectivement, ils ont peut-être dû couper ça.
Il y a deux journalistes qui sont allés dans ces dîners ou dans ces déjeuners clandestins. En l'occurrence, un dîner. Bon, ils ont filmé à caméra cachée. Ils ont publié cette enquête et ensuite ils nous disent on va poursuivre nos investigations. Moi je trouve ça hallucinant.
C'est-à-dire
qu'il y a un problème de déontologie
journalistique. En fait, ils ont un problème de preuve apparemment aujourd'hui. Hier soir, Cyril Hanouna a invité un serveur sur son plateau que moi j'ai trouvé particulièrement léger. C'est-à-dire n'ayant reconnu vraiment personne, Cyril Hanouna l'a dit, tweeté en disant on lui a montré le trombinoscope. J'imagine la scène après l'émission du gouvernement. C'était un homme à cheveux gris. Il n'a pas retrouvé qui c'était. Franck Riester, dont le nom circulait, est obligé de se justifier.
Ah oui, mais tout ça est absolument hallucinant. Ça feuilletonne depuis 4 jours, ça fait la une de toutes les chaînes d'infos. Moi, je trouve ça complètement dingue.
Patricia Balme, vous qui êtes communicante, qu'est-ce que vous conseilleriez au gouvernement? Parce qu'un communiqué ferme disant « aucun ministre n'a jamais participé » serait de bon aloi.
Oui, mais c'est très délicat, ne sachant pas si justement... Alors, ils avaient parlé au départ de plusieurs ministres, ils se sont rétractés en disant « il y avait un ministre ». Hier soir, il a été dit qu'il y avait un ministre. Je pense que le gouvernement ne doit pas communiquer sur cette affaire, c'est mon point de vue de communicante, pour la raison suivante. Tant que les faits ne sont pas avérés et que l'on ne sait pas, on ne rentre pas dans un sujet pareil qui, après tout, est mineur. Ce qui serait majeur, en revanche, ce serait la présence d'un ministre dans un dîner pareil. Et ça, ce serait assez grave. Mais je pense que pour l'instant, le gouvernement n'a pas communiquer sur ce sujet jusqu'à la fin d'une enquête pour savoir si réellement un ministre du gouvernement était présent ou non.
Oui, alors il y a une enquête qui a été confiée au préfet de police allemand. Attendons l'enquête, mais arrêtons de feuilletonner sur cette affaire tous les jours.
Ça, enfin, ça passionne les gens. Et nous, on a posé la question, est-ce que c'est une affaire d'État ? On a 80% des gens qui nous répondent oui. Dit quand même quelque chose de notre pays sur la défiance ces riches
Je suis d'accord, vis-à-vis des élites, etc.
C'est surtout une question d'exemplarité à un moment où on demande aux Français les plus grandes restrictions, et notamment de liberté, d'aller et venir, d'aller dîner chez les uns et chez les autres quand c'est possible. Et c'est vrai que cette personne que je ne connaissais absolument pas,
Chalençon, qu'on découvre, lui-même dit
d'ailleurs, j'ai entendu dans une interview, toute la France me connaît, je ne vous connaissais pas, vous organisez des grands dîners, des dîners mondains visiblement, vous connaissez la terre entière, il assume à un moment donné publiquement dire qu'il connaît très bien Gabriel Attal, le lendemain matin, Gabriel Attal dit qu'il ne le connaît pas. Enfin, tout ça est surréaliste. Et j'ai entendu en plus un autre discours hier de ce monsieur Chalençon qui expliquait que maintenant il n'organisait plus des dîners, mais lui-même allait à des dîners où il voyait des ministres.
Mais c'est ce qu'il dit dans le
soit à un moment donné il met tout sur la table, soit effectivement il arrête de feuilletonner, mais on ne peut pas reprocher à une rédaction comme celle d'M6 d'avoir fait son travail et de vouloir poursuivre le travail parce qu'elle est mise en cause dans cette affaire. Parce
que aujourd'hui Chalençon n'a pas fait son travail,
elle continue son travail, elle n'est pas en capacité de révéler les noms de qui sont les personnes qui étaient dans ces... Mais vous rendez compte de ce dont on est en train de débattre alors qu'on est en pleine crise sanitaire.
Absolument.
Et que c'est un sujet effectivement parce que les Français sont choqués, non pas que des ministres aillent dîner dans des dîners mondains, mais que ces dîners
puissent avoir lieu aujourd'hui.
Et je regrette moi-même d'avoir abordé ce sujet, mais ça m'énerve tellement que...
mais des dîners qui ont lieu et qui étaient, encore une fois, promotionnés sur Instagram. Il y avait, en toute impunité, les menus qui étaient affichés. Aurélien Véron, un mot, et puis on va changer de sujet, effectivement.
Oui, c'est un sujet qui révèle une grande lassitude des Français. Ça fait plus d'un an que des mesures très restrictives de nos libertés sont imposées à tous. Les Français sont plutôt, dans l'ensemble, responsables et respectent, même si on a des poches de rébellion ici ou là. Et donc l'exemplarité est attendue. Je ne pense pas que ce soit un sujet majeur, mais ça révèle cette attente. On nous interdit beaucoup de choses sans débat public, sans débat parlementaire. En contrepartie, nous attendons de l'exécutif qui pilote nos vies au quotidien de respecter ces règles qui doivent s'appliquer à tous. Voilà, donc si une personnalité tombe, elle tombera, mais ce n'est pas un sujet majeur, c'est un sujet qui révèle l'état d'esprit des Français quand même.
Oui, c'est le fait que ça prenne à ce point-là, ça signifie quelque chose. Alors Aurélien Véron, vous êtes, on l'a dit, de porte-parole du groupe Changer Paris, donc c'est un sujet parisien qui vous anime ce matin.
C'est un sujet parisien, mais qui amuse le monde entier, puisque la presse en parle en Corée, en Australie, au Japon, en Chine, aux États-Unis, avec le New York Post hier soir. Il s'agit du hashtag Saccage Paris, hashtag qui dure depuis plusieurs semaines maintenant, qui commence à s'ancrer dans la mentalité des Parisiens. Je suis surpris par les commentaires de la gauche qui dit que c'est piloté par la droite. Moi, je peux vous dire que le noyau dur qui a lancé cette opération n'est ni de droite ni de gauche. Je ne les connais pas personnellement et je connais depuis plusieurs mois leur activisme pour l'esthétique parisienne. Ce sont des personnalités très indépendantes, très autonomes, qui refusent d'être instrumentalisées et je les admire beaucoup. Je tiens à signaler que parmi ces initiatives, il y a une concertation sur l'esthétique de Paris, car ce hashtag qui a déjà été longuement débattu dans la presse, dans Le Monde, sur votre antenne et ailleurs, ce hashtag concerne non pas seulement la propreté de Paris, mais l'esthétique de Paris, le visage de Paris. Et le visage de Paris, c'est le visage que le monde entier vient chercher. Anne Hidalgo a imposé, a brutalisé ce visage pour mettre des bancs en cagettes recyclées, en bois de travers, des morceaux de granit mal taillés, des pissotoirs avec des urinoirs solaires qui ne marchent pas d'ailleurs. Donc, on a un travestissement de Paris qui choque beaucoup les Parisiens, de gauche comme de droite. Et ce hashtag s'est traduit par... une sorte de communauté assez joyeuse malgré tout, qui, de manière sarcastique, critique beaucoup Anne Hidalgo et sa politique d'esthétique. Je termine sur une initiative qui conclut ce hashtag « Saccage Paris », c'est une concertation pour renouveler l'esthétique parisienne. Anne Hidalgo a lancé ce chantier en appelant les Parisiens à s'exprimer sur un faux sondage, une fausse concertation à son habitude, où en fait on doit choisir entre la pissotière solaire ou la pissotière à pompe manuelle. Mais en gros, y a aucun choix. Et Quentin Duvernois sur Twitter a lancé sa propre concertation auprès des Parisiens. Il a reçu 4 fois plus de résultats des Parisiens que Anne Hidalgo elle-même. Comme quoi, les initiatives populaires, la démocratie directe, ça marche. Et pour les 150 ans de la Commune, peut-être qu'Anne Hidalgo devrait se préparer à une mini-commune parisienne.
Alors, je ne peux que soutenir Aurélien Véron parce que je dénonce, en tant que Parisienne en colère, je dénonce les méfaits d'Anne Hidalgo sur la capitale, tant sur le plan esthétique que sanitaire, parce que les poubelles amoncelées, etc., Je suis allée récemment dans le 20e arrondissement pour des obsèques, je n'y étais pas allée depuis longtemps. Ce que j'ai vu est tellement lamentable, les arbres coupés, des espèces de végétalisation minable, des plantes qu'on n'aurait même pas chez soi. Elle a détruit la capitale, mais pire que cela, elle a empêché des commerces de pouvoir travailler normalement, notamment rue de Rivoli. Les commerçants ferment les uns après les autres. Et au-delà du Covid, c'est une catastrophe commerciale, financière.
Voilà des propos très mesurés. Elle a détruit la capitale.
Pour compléter ce que dit Patricia, comme Anne Hidalgo est très souvent en campagne en ce moment et dans les régions de France, malgré le confinement, pour faire sa campagne en vue de 2022, en tant que Parisien, j'aurais envie de vous dire, prenez-la. Élisez-la en 2022 parce que on va la débarrasser de Paris. Mais en tant que citoyen, en tant que Français, je vais vous dire une chose pour l'intérêt général.
Bah, je ne sais pas si c'est là, de ce que vous dites, ce ne serait pas l'intérêt général. Dur, allez, on doit s'interrompre parce que c'est l'heure du journal et qu'à 11h, c'est le journal. Mais je vous donnerai la parole à tous les deux en plateau, Jérôme Dubus et Pierre Jacquemin, parce que vous voulez réagir sur ce sujet. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons l'actualité avec Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBcom International, Aurélien Véron, conseiller de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris, Jérôme Dubus, membre de La République En Marche et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard et coordinateur du livre Dessine-moi un pangolin paru aux éditions du Diable Vauvert. On va parler d'Édouard Philippe, on va parler de ce sondage autour de la délinquance et vous vouliez réagir. Alors c'est un sujet parisien certes, on a beaucoup d'auditeurs dans le sud-ouest, mais Anne Hidalgo...
C'est vrai que c'est un sujet parisien, mais la manière dont est abordé le sujet en fait un sujet politique, de politique presque nationale à chaque fois. J'entends Monsieur Véron nous expliquer que c'est la faute d'Anne Hidalgo que Paris serait moche parce qu'esthétiquement laide, vous avez dit, je ne sais plus quel était le mot que vous avez utilisé, et puis elle serait sale. Bon, et puis vous nous avez ajouté une phrase qui est assez croustillante pour nous expliquer qu'aujourd'hui la mobilisation sur la saleté de Paris serait apolitique, serait instrumentalisée par personne. On voit quand même qu'elle correspond à un agenda politique de certains. Je vois bien l'élu du 18e arrondissement, Pierre Licia, faire sa campagne.
Il n'est pas élu, hein.
Oui,
il n'est pas élu, il n'est pas dans la boucle.
Oui, c'est assez étonnant, il n'est pas élu. Il a fait 3% ou 3,5%, je crois, aux dernières élections municipales, et il nous explique qu'Anne Hidalgo fait du mauvais travail. Peut-être qu'il y a des choses à faire progresser, mais Jérôme Dubus le disait tout à l'heure, il y a 10, 15, 20 plus même, sans doute, que Paris est sale et que personne n'a trouvé les bonnes solutions, et que sans doute les solutions, c'est aussi une question de civisme avant de penser que la réponse est éminemment politique. Les solutions ont été...
Non mais, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Il faut essayer d'autres pistes. D'ailleurs, Hidalgo avait même proposé qu'effectivement, les compétences de la propreté à Paris soient décentralisées dans les mairies d'arrondissement. Voilà, c'est peut-être des choses vers lesquelles il faut aller, mais il faut arrêter de mettre de la politique.
J'ai été élu pendant 20 ans à la ville de Paris, donc chaque conseil de Paris, je parle sous le contrôle d'Aurélien maintenant qui est élu, à son tour, conseil de Paris, on abordait le problème de la propreté. Bon. Sous Chirac, il faut reconnaître que Paris était relativement propre. L'esthétisme, on peut en parler, l'urbanisme aussi, il y avait aussi des horreurs. Bon, mais la propreté, ça peut se résoudre. D'abord, c'est une compétence 100% du maire. Il n'y a pas de conseil régional, il n'y a pas d'État. C'est une compétence 100% du maire. Donc, si le maire veut régler le problème de la propreté, il peut le faire. Et les moyens sont assez clairs. Un, il faut hiérarchiser beaucoup plus la direction de la propreté. Il ne faut pas non plus augmenter considérablement le nombre d'employés, mais il faut le hiérarchiser, il faut l'encadrer. Et aujourd'hui, depuis 2001, ça ne fonctionne plus. Deux, il faut moderniser, bien évidemment, et ça veut dire qu'il faut investir, et ça n'est pas fait suffisamment. Madame Hidalgo nous a, pendant la mandature précédente, proposé 4 plans pour résoudre la propreté à Paris. On voit le résultat. Mais je crois que la propreté, c'est une chose sérieuse, c'est quelque chose du quotidien, c'est quelque chose qui dépend directement du maire de Paris, et on connaît les solutions. Alors après que c'est exploité actuellement, c'est pas la première fois, sous Delanoë, il y avait aussi des campagnes dénonçant le manque de propreté à Paris. Mais maintenant, il faut se mettre autour d'une table et il faut résoudre le sujet. Parce que c'est ça qu'attendent les Parisiens.
Il faut aussi entendre que les gens qui nous écoutent sachent aussi que ce qui a été fait au cours des deux mandatures précédentes, notamment Anne Hidalgo et avant Bertrand Delanoë, c'est que Paris respire davantage. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'espace de respiration où les gens peuvent se balader sans les voitures. Ouais, et que donc, du coup, il y a aussi ces problèmes de... On voit bien sur les quais de Seine. Il y a souvent des photos qui sont posées après les quais de Seine, après les heures d'apéro. Donc effectivement, à ce moment-là, les gens sont parfois pas très propres. Donc effectivement, ils laissent leur
esthétique. Non, mais la propreté, si vous voulez, c'est quand même quelque chose d'essentiel.
Oui, mais la mairie de Paris réussit le débat, effectivement, en déplaçant l'homme sur la propreté, en disant, comme vous le dites, ça fait 20 ans que, que c'est sale. Sauf
c'est
que c'est un problème d'esthétique. Vous voyez,
c'est le mobilier urbain, donc on peut se poser le problème.
Non, mais le problème, c'est le mobilier humain. C'est humain.
Aux auditeurs de province qui vivent dans des villes magnifiques. Je prends pour exemple Bordeaux, Lyon et des petites villes comme Cannes, comme Nice, etc. En effet, c'est un problème aussi esthétique. Moi, je ne suis pas politique, je ne fais pas de politique, je suis une Parisienne en colère. Et quand vous voyez l'horreur esthétique qu'est devenue Paris, avec des plots jaunes, des blocs de béton, je ne parle même pas des rues avec des nids de poules où les voitures se cognent, où les motards ne peuvent plus rouler. Ce que je dis, il y a un problème de sécurité, il y a un problème esthétique. Sous Chirac, Paris était magnifique et petit à petit, et même sous Bertrand Delanoë. Mais l'arrivée d'Anne Hidalgo a détruit la beauté de cette ville. Et je dis aux gens de province, comparez Paris quand vous venez aux villes de province magnifiques dans lesquelles vous vivez, où il y a de la verdure, où c'est esthétiquement parfait.
Non, mais il y a des choix qui interrogent sur le mobilier urbain, sur les plantations, les arbres.
Les urinoirs végétalisés en bois.
Oui, ça,
c'est la place de la République. La place de la République est très emblématique. Elle a coûté 25 millions d'euros. Il y avait deux squares avec des fontaines, avec de la verdure. Les squares ont disparu. Nous avons aujourd'hui une grande esplanade en granit, dont les pavés sont disjoints d'ailleurs, mais on n'a plus de square, plus de fontaines. On a la statue au milieu qui est taguée quasiment toutes les semaines, et il n'y a que du minéral. Donc quand on parle de végétalisation, moi je l'attends la végétalisation. Bon. Depuis un an, Paris a perdu en net 100 arbres. Donc ça veut dire,
vous prenez la place de la République, c'est un rendez-vous c'est un espace où il y a des rendez-vous très populaires. Vous prenez la place de la Bastille ou la place de la Nation. Aujourd'hui, c'est des places qui ont été végétalisées.
Non, mais attendez, le vrai sujet que ça pose. Juste une dernière phrase. Le vrai sujet que ça pose, c'est la raison pour laquelle, malgré toutes ces carences en matière de propreté, en matière d'endettement qu'elle a laissé flamber, en matière de gestion du personnel, etc. La vraie question que ça pose, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas réussi à battre Madame Hidalgo dernière municipale. C'est tout. C'est cette question-là qu'il faut se poser. Parce que ça va recommencer la prochaine fois. Et ça fait quatre fois que ça marche.
Personne
ne se pose la question de savoir pourquoi on ne l'a pas battu.
Parce que les Parisiens ont plébiscité
pour la première fois depuis 20 ans. La gauche n'était pas majoritaire en voix, et c'est une triangulaire qui malheureusement était bloquée par LREM qui a empêché la fusion et la victoire de la droite.
En tout cas, les maires de Paris.
Les maires de Paris. Mais je trouve que la réponse n'est pas bonne. De dire c'est l'extrême droite et Paris a toujours été sale, c'est pas la bonne réponse.
Parce qu'elle est interviewée dans une émission où elle a 3 minutes pour répondre et vous l'interrogez.
C'était Emmanuel Grégoire aussi.
Et vous voyez bien qu'à côté, il y a une action municipale qui est mise en place. Des moyens qui sont mis en place, la volonté de délocaliser la compétence de la propreté dans les mairies d'arrondissement. Bon, il faut écouter l'intégralité du discours.
On est d'extrême droite.
On va parler de Mme von der Leyen à Ankara dans un instant, de votre coup de gueule également. J'en profite, il nous reste peu de temps. Moi, je voulais faire un coup de cœur à notre ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui a décidé de demander la Légion d'honneur pour les présidents des deux aéroclubs de Poitiers dont les subventions ont été coupées par la mairie écologique. Donc, la maire, effectivement, tout le monde a dit ce qu'il pensait de cette phrase en disant il faut arrêter que les enfants rêvent sur les avions, mais je pense que demander la Légion d'honneur est aussi ridicule, non Pierre?
Ah bon, je pensais que vous étiez un vrai
coup de cœur. Ironique. Le grotesque.
Nous sommes d'accord.
Il y a le Gorafi qui a dit allez démerdez-vous maintenant, on est dépassé.
On a commencé l'émission avec Chalençon et c'était très intéressant parce qu'on s'est dit des choses intéressantes, et là on va être sur un autre débat qui est depuis hier sur les réseaux sociaux hallucinant, qui est celui effectivement du ministre des Transports qui propose la Légion d'honneur à deux chefs d'association. Non mais franchement, ils mesurent pas la responsabilité qu'est la leur, et surtout ils dégradent ce qu'est l'institution
Elle est dégradée à chaque.
Si on veut ajouter de l'humour à l'humour, effectivement, si on doit remettre une Légion d'honneur à toutes les présidents d'associations qui ont perdu des subventions, on remet en selle les contrats aidés. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup tellement de gens qui ont perdu de l'argent dans les associations que au final, il faudra remettre des légions d'honneur à beaucoup de monde.
Oui, évidemment que c'était ironique quand je dis un coup de cœur. Patricia, vous en avez pensé quoi?
Moi, j'ai pensé que c'était ridicule et que ça avait l'air d'un poisson d'avril de demander la Légion d'honneur pour les présidents d'aéroclub, maintenant, je trouve que la maire a pris une décision lamentable.
Oui, oui, non, mais ça on l'a beaucoup commenté, mais la réponse est tout aussi ridicule, je pense.
Oui.
Voilà. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un petit instant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Patricia Balmolieri, Aurélien Véron, Jérôme Dubus et Pierre Jacquemin. On va continuer notre tour de table. Pierre Jacquemin, je vais vous faire écouter le son de votre coup de gueule. C'est Fabien Lecoeuvre. Écoutez ce qu'il disait hier.
Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des belles ou des filles sublimes? Bon, quand vous regardez Oshii, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Oshii dans votre chambre, vous. Mais elle est effrayante. Non mais quand je dis ça, j'ai rien contre cette fille qui est géniale et qui a du talent. Je l'ai reçue avec son succès Ta Marinière, qui est géniale. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes.
Voilà. Donc, il s'est excusé par la suite en disant « Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d'époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention au physique des artistes qu'aujourd'hui. » Ce qui est encore pire.
La réponse est pire. Et par ailleurs, elle est fausse. Vous prenez des vieilles personnalités artistes comme Gainsbourg, Piaf, même Brel, des gens qui ont d'ailleurs chanté, ou en tout cas Gainsbourg qui a chanté sur la question de la laideur. Ces propos, moi, vraiment choqué pour des milliers de femmes, surtout, parce que, évidemment, et j'espère que ce Fabien Lecoeuvre n'est pas chef d'entreprise ou qu'il ne dirige pas des salariés, parce que la discrimination à l'embauche, s'il était en situation d'embaucher, on se dit qu'elle serait quand même problématique. S'il décide d'avoir, selon ses propres présupposés de ce que doit être un canon de la beauté aujourd'hui, en l'occurrence le corps des femmes ou le corps des hommes, puisqu'il parle aussi, il dit il n'y a plus de bel homme aujourd'hui à la télévision, il n'y a plus de bel homme qui chante, il n'y a plus de bel homme, etc. Ce qui est quand même assez surréaliste. Et ça m'a réveillé aussi ce malaise médiatique qu'on a eu au moment où il y a eu Corinne Maciero, l'actrice qui, au moment des Césars, est arrivée sur scène nue et on a pointé du doigt le corps d'une femme moche, laide, comme il a été décrit par bien des gens. Ce qui ne fait pas et ce qui ne provoque pas toujours la même sensation quand c'est un homme qui le fait, et ça a été le cas souvent aussi. César, mais cette jeune chanteuse Oshii, en plus, qui a un talent formidable, que j'écoute en permanence en plus en ce moment, et qui écrit ses chansons, qui est une très jolie chanteuse, par ailleurs, a été heurtée. Elle a fait un tweet pour d'incompréhension presque de ce Fabien Lecoeuvre qui s'en est pris à elle. Bref, ça doit nous interroger, et surtout, j'espère que ce Fabien Lecoeuvre va être sanctionné d'une quelconque manière, parce que c'est pas possible de considérer qu'un artiste n'a pas le droit de chanter à partir du moment où, selon son propre présupposé, cet artiste serait moche, grosse, pas fréquentable, etc. Ouais. Parce que c'est ça qu'il dit en même temps, c'est qu'il dit, elle a un talent fou cette fille, mais elle devrait se cacher.
Elle
devrait donner ses textes à des autres chanteuses qui seraient sans doute plus aptes à chanter et plus aptes à être visibles à la télévision. Dans quel monde nous vivons? Dans quel monde ce monsieur vit? Et il n'en est pas à son premier fait d'armes, parce que j'ai réécouté aussi plusieurs de ses interviews où il avait eu des propos assez homophobes aussi contre ce jeune chanteur. Il a la Sani, qui avait été le représentant de la France à l'Eurovision, où il avait dit, mais cette personne ne sait pas où elle habite, elle ne devrait pas représenter la France. Enfin, ces gens-là ont une influence dans le milieu artistique, et c'est dingue de se dire que c'est le physique, encore une fois, la plastique, en l'occurrence d'une femme, qui est au cœur de ce débat-là. Mais franchement, on se dit que la vague MeToo a encore du mal la vague féministe a du mal à émerger, vraiment. C'est pour ça que je me suis repris féministe, en tout cas.
Ouais. Patricia,
j'adhère totalement à ce que vous venez de dire. Vous voyez, on peut être d'accord, pas sur Hidalgo, mais sur un autre sujet. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que le talent est au-delà du physique d'une personne. Et je vais vous prendre un exemple. Celle qui, pour moi, est la plus grande chanteuse du monde s'appelle Barbara Streisand. Mmh. Et Barbara Streisand n'était pas dans les canons de la beauté de l'époque quand elle a commencé à chanter. Elle avait même un visage un peu disgracieux et son talent est tellement immense que son physique n'avait aucune importance. Ouais, et elle est devenue belle grâce à son talent.
Vous avez raison.
Aurélien, je veux
rebondir, parce que c'est vrai que moi ça m'a fait penser à Céline Dion, qui n'était pas un canon de la beauté non plus, mais par des gens comme Fabien Lecoeuvre. Céline Dion, on l'a vu tous évoluer avec de la chirurgie esthétique pour devenir un standard qui devait être le modèle espéré, imaginé par la plupart des hommes.
C'est assez lamentable et il faut qu'il soit éventuellement, s'il y a des plaintes, il faut qu'il soit condamné, etc. Mais je trouve qu'on est quand même plus du tout dans les standards encadrée et absolue des années 70-80. Moi, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup progressé. Ouais. D'ailleurs, la laideur et la beauté, ça évolue. Les Rolling Stones, pour reprendre eux, au début des années 60, on les trouvait affreux. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous attirait vers eux, parce que, justement, ils étaient un peu iconoclastes. Mmh. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans les standards. Ce sont des... Mick Jagger est un lord, tout le monde le trouve phénoménal, un sex symbole, etc. Donc, si vous voulez, la beauté et la laideur, ça évolue aussi. Donc,
c'est vrai qu'il faut pas condamner. Et c'est subjectif aussi. Oui, Aurélien Véron, en mot. Oui.
Mais évidemment, je suis heurté, comme tout le monde, par ce genre de propos. Même il y a 20 ans, c'était heurtant. Aujourd'hui, ça l'est encore plus parce que la prise de conscience est réelle parmi toute la jeune génération. C'est bien que ce genre de propos soit poursuivi. En même temps, ça reste de la connerie. Ouais. Ça reste de la connerie sexiste ou homophobe, qui est plus grave d'ailleurs, qui est dans une gravité. Le racisme, l'homophobie sont quand même des dire que quelqu'un est moche ou laid, c'est con. Dire quelqu'un parce qu'il est homosexuel ou parce qu'il est noir ou parce que me paraît plus grave. Mais de là à avoir du lynchage avec des figures qui sont validées ou invalidées définitivement, donc un rappel à l'ordre, une sanction, que ces gens-là apprennent ce que c'est que la vie aujourd'hui, ce qu'on a en tête. Et quand on entend ça, on a honte pour le média qui a laissé parler comme ça, un présentateur ou la figure, je la connais pas. Bon. Mais on ne peut être que heurté.
Allez, on va changer de sujet, on va passer à votre coup de gueule, Patricia. Je vous propose d'écouter un petit résumé qu'on a fait l'émission Quotidien hier.
Vous avez bien vu, le président turc Erdogan et Charles Michel s'installent pendant qu'Ursula von der Leyen les regarde interloqués et finit par s'asseoir, en fait sur le canapé d'en face. Il n'y avait pas de place prévue pour elle, personne n'y avait pensé. Pourtant, Charles Michel, président du Conseil, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, sont au même niveau hiérarchique. Cet incident a déjà son hashtag sur Twitter, Sofagate.
Voilà, Sofagate, le Sofagate, et je ne crois pas que le journaliste quotidien ait raison. Les Échos ce matin nous disent que le président turc a relégué la présidente de la Commission européenne à une place protocolaire inférieure à celle de Charles Michel, le président du Conseil européen. Patricia, ce sont des images, effectivement, que vous avez entendu ce « hum » prononcé par Ursula von der Leyen qui dit « moi je fais quoi ? Elle est debout. Est-ce qu'elle aurait dû partir ? Est-ce que Charles Michel, tout le monde le critique aussi aujourd'hui, aurait dû laisser sa place à Ursula von der Leyen ?»
Il y a deux sujets dans ce sujet pour moi. Il y a d'une part la goujaterie masculine poussée à son paroxysme. Effectivement, Charles Michel aurait d'abord pu attendre que Madame von der Leyen soit assise pour s'asseoir. Et il y a l'attitude du président Erdogan. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Charles Michel, lui, qui, on le sait, a de très mauvais rapports avec Ursula von der Leyen, n'en a eu que faire du protocole dans cette séquence internationale. Quant à Erdogan, on le sait, méprise l'Europe. Il est aujourd'hui, il s'est retiré en pleine nuit d'ailleurs de la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes, et il a expliquer en deux mots que le sujet ne l'intéressait pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a humilié une femme hier, il a humilié une femme qui avait fonction, et il a bafoué l'Europe. Donc voilà tous les sujets en un. Ce que je dis simplement, c'est que effectivement Charles Michel aurait dû veiller à ce qu'Ursula von der Leyen ait une place à égalité avec la sienne. Et je pense qu'Ursula von der Leyen, son porte-parole, l'a dit, elle a voulu rester sur le fond.
Pour privilégier le fond,
le dialogue, sûr. Mais elle aurait eu un courage fort, elle serait partie, elle se serait levée, elle serait partie.
Parce que c'est au-delà, au-delà de ça, c'est quand même tout le problème des femmes, de la place des femmes, dans cet islam politique.
Ah oui, mais justement, je partage ce que dit Patricia totalement. Moi, j'irais même plus loin, c'est-à-dire que vraisemblablement, Erdogan l'a parfaitement organisé pour qu'il y ait des photos. Je rappelle qu'Erdogan, en ce moment, est en difficulté électorale, puisqu'il y a des élections bientôt en Turquie, et que visiblement, son parti ne arriverait pas premier, selon les sondages, il faudra vérifier, parce qu'il est champion du bourrage des urnes. Donc, effectivement, ça peut changer le jour du scrutin, mais il est dans un contexte électoral extrêmement difficile. Donc, il a voulu donner à ses partisans un certain nombre d'images, qui sont des images chocs. Et Charles Michel, est l'idiot utile, enfin excusez-moi de l'expression, mais il est l'idiot utile dans cette affaire. Il aurait dû claquer la porte immédiatement, il aurait dû partir. Enfin, non seulement laisser sa place, ça va de soi, effectivement c'est une faute de politesse vis-à-vis de Mme van der Leyen, mais surtout, une fois que tout le monde était assis, il aurait dû dire « moi, je pars, s'il n'y a pas un fauteuil pour Mme van der Leyen à côté de moi, je m'en vais, c'est inadmissible qu'il soit resté ». Et oui, il a mis une journée pour s'excuser, vous rendez compte ? Une journée pour faire un tweet et pour s'excuser. C'est quand même invraisemblable.
Je voudrais juste aller un peu plus loin et je dirais que plus profondément, il est temps de se poser la question sur le processus de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et je pense qu'il faut vraiment interrompre ce processus. Je veux dire, la Turquie d'Erdogan, et ce n'est pas la Turquie qui est visée dans mes propos, mais le président de la Turquie. Ouais. Et je pense qu'Erdogan n'a pas sa place dans le concert des nations européennes.
Enfin, il est toujours dans l'OTAN, personne ne dit rien. Hein.
Oui.
C'est le gros
Aurélien,
enjeu.
Aurélien Véron, parce qu'il faut rappeler quand même que Erdogan, la semaine dernière, a fait sortir son pays de l'accord international d'Istanbul contre les violences faites aux femmes. Il y a quand même de la misogynie, une sorte d'islamisme radical politique qui est là, et ça en dit long, je pense, sur l'état de la démocratie, enfin de l'Union européenne, Aurélien Véron.
Oui, mais ça en dit long. Absolument. Ça en dit long aussi sur la faiblesse de l'Union européenne par rapport à la Turquie. Et cette Europe à 25 est un ratage. Autant l'Europe des 9 était une Europe intéressante, mais là, c'est un ratage.
Alors,
sujet, c'est qu'effectivement, Erdogan est en position de faiblesse et que donc, comme tout dictateur en position de faiblesse, il joue sur les registres nationalistes et religieux, car aujourd'hui, le prosélytisme des frères musulmans est largement financé par Erdogan. Deuxièmement, il a déjà menacé très récemment les intérêts grecs en envoyant des navires militaires dans les eaux territoriales de la Grèce, membre de l'Union européenne. Le seul pays qui a réagi, c'est la France, parce que l'Allemagne est très empêtrée dans sa population turque, qui a d'ailleurs voté très largement Erdogan aux dernières élections, donc une population turque très orthodoxe, et donc l'Allemagne n'a pas réagi. Et je pense que là, Erdogan a voulu montrer que l'Europe est faible. Et la réaction de van der Leyen et de Charles Michel ont confirmé que l'Europe est faible et que le seul pour l'instant qui a eu la fermeté vis-à-vis de la Turquie, et je ne suis pas macroniste, c'est Emmanuel Macron qui a soutenu la Grèce et qui a marqué que l'Union européenne s'arrêtait aux frontières de la Grèce vis-à-vis de la Turquie. La Turquie devient.
Et qui lui aussi a été insulté par Erdogan, je rappelle.
Absolument. Et la Turquie, qui pourtant, les Turcs sont encore une fois très proches de nous, on en connaît beaucoup. On sait qu'Ankara et Istanbul ont déjà désavoué Erdogan dans les dernières élections municipales et qu'une claque attend Erdogan peut-être au prochain scrutin national. En tout cas, il s'agit bien d'Erdogan. L'Union européenne doit affirmer sa fermeté vis-à-vis d'Erdogan aujourd'hui. Avec Frontex et les frontières, puisque la menace d'Erdogan, ce n'est pas seulement la soft power, ce financement d'islamistes frères musulmans en France et en Europe, mais surtout en France, le financement des loups gris, qui, rappelez-vous, nous avons montré des images à Dijon et ailleurs épouvantables de chasse aux Arméniens dans les rues de villes de France. Mais c'est aussi Erdogan qui menace la Grèce, qui menace nos intérêts territoriaux, pour affirmer son pouvoir. Donc, je crois que c'est le moment où il ne faut pas lâcher, c'est le moment où il faut à la fois établir un dialogue, c'est ce que voulait faire Mme van der Leyen, et en même temps afficher la fermeté et la cohésion européenne.
Oui, alors on va marquer une petite pause et je vous donne la parole après, Pierre Jacquemin, sur ce sujet important. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Nous parlons donc de ce Sofagate. Angela. Non, c'est pas Angela.
Ursula
von der Leyen. J'étais en train de lire des tweets qui a été reléguée sur le sofa, n'avait pas de place aux côtés du président Erdogan. Alors Pierre Jacquemin voulait réagir.
Oui, parce que parfois il y a des images qui sont plus fortes que des paroles ou même des décisions politiques. Et cette image-là, je trouve désastreuse. On entend la majorité. Il y a eu beaucoup de débats sur la complaisance avec les islamistes, avec l'islam politique, notamment sur une partie de la gauche. Là, on a un haut responsable de l'Union européenne, le président du Conseil de l'Europe, qui décide de ne pas de jouer le jeu, en fait, qui est
en tout cas qui lui est imposé par le président turc.
Oui, exactement. En fait, il y a un piège qui lui a été tendu. Il a décidé de jouer le jeu que Erdogan voulait lui faire jouer. Et je trouve que au-delà de la du fait qu'il s'est décrédibilisé en tant que responsable politique et haut fonctionnaire de l'Union européenne, il est même plus aujourd'hui question que ce monsieur soit responsable. C'est-à-dire que je trouve qu'il a fait là un acte absolument irresponsable.
Oui, mais il va rester. Il va rester.
Ben, il va rester. Je trouve que ça. C'est pour ça que je disais que les images sont parfois plus fortes que des actes et des propos politiques. C'est que là, il a humilié, il a participé de l'humiliation de la présidente de la Commission européenne et que
comme la Turquie va rester dans l'OTAN, comme les soldats, un certain nombre de milices
si vous
armées,
voulez, on parle souvent de compromission, mais pardon, mais là,
sont
il
toujours
a...
en Libye et qu'on ne fait rien.
Non, mais ça,
on
ça.
L'OTAN s'étiole. L'OTAN s'étiole et une défense européenne. Pardon. Est au balbutiement, mais commence un petit peu à prendre forme.
Non, mais on ne
par
fait rien.
À ce que vient de
mais par ailleurs, on n'a rien à attendre, pardon, mais ouais. On n'a rien à attendre, nous, en tant qu'État français, et je pense en tant qu'Union européenne, on n'a rien à attendre de la Turquie, de Erdogan. Et non. Que par ailleurs, cette visite diplomatique, je ne sais plus quels étaient les sujets à l'ordre du jour, mais aurait dû valoir à ces deux hauts dignitaires, enfin des hauts responsables plutôt de l'Union européenne, Charles Michel et Mme von der Leyen, ils auraient dû être coordonnés. On sait qu'il y a une confrontation politique entre les deux qui ne s'apprécie pas beaucoup, en tout cas sur les questions d'affaires étrangères. Là, en l'occurrence, je pense que c'est un échec de la stratégie, encore une fois, de l'Union européenne et une victoire de Erdogan.
C'était un voyage qui devait réchauffer les relations diplomatiques. Donc, c'est raté, effectivement. Patricia Balm.
Je voudrais juste ajouter une chose à ce que vient de dire Pierre Jacquemin. C'est qu'en fait, en termes de hiérarchie de leurs fonctions, Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, qui est président du Conseil européen, sont tout à fait à égalité sur un positionnement hiérarchique.
Alors,
donc
oui.
Je pense que Erdogan a traité Charles Michel et l'a mis en avant à dessein et
bien
pour
sûr.
Humilier une femme.
C'est
aussi simple que
les
ça.
Images montrent que par le passé, dans le même scénario,
voilà.
Il y a
mais
les trois qui sont ensemble.
Qu'on ne dise pas qu'on va faire preuve de fermeté parce qu'on ne va rien faire.
Non, mais
moi, je vous le dis, on ne fera rien une fois de plus.
Oui, c'est ça, c'est la
pour
question.
Moi, Charles Michel,
ne fera rien.
Charles Michel était totalement discrédité.
Monsieur Charles Michel va rester en place. La Turquie va rester dans l'OTAN. Elle continue d'armer un certain nombre de gens en Libye et en Syrie. Et on ne fait rien.
Et puis ça arrange aussi l'Europe. Parce que derrière cette accalmie, il y a financement qui est de
6 milliards d'euros
pour que la Turquie garde les migrants et ne les envoie pas en Europe.
Oui,
il y a aussi
c'est un des leviers de pouvoir, un des leviers de négociation.
Alors, on a Jean-Paul en ligne qui voulait réagir. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour à
bonjour.
Toutes et bonjour à tous.
On vous écoute.
Voilà, je voulais simplement dire que je suis étonné de tout ce battage autour de cette situation. Alors qu'Erdogan ait manqué de respect à Madame von der Leyen et à l'Europe en général et tout ça, c'est pas le fait d'aujourd'hui. Macron a été insulté par cet homme. Il s'est attaqué à la Grèce d'une manière sournoise et autre. Comment dirais-je ? Il se fout complètement des pensées de l'Europe.
Oui.
Erdogan déroule son projet, il veut être réélu, c'est un islamiste pur et dur,
oui.
Et il agit en tant que tel. Il a le soutien d'une grande partie de son peuple, notamment qui se trouve en Europe, et il s'en sert. Le reste, pour moi, ce n'est que du blabla. Et c'est inutile, et tant que cette Europe sera faible à lui dérouler des tapis, et en se mettant à plat ventre devant lui, en se déplaçant, le problème sera le même. Il n'y a qu'à voir la mosquée de Strasbourg, et ainsi de suite. Tous ces discours, honnêtement, me désolent, parce que pour moi, vu la faiblesse de l'Europe, de la France et des autres pays, ça ne sert à rien. Erdogan ne s'excusera de rien, et il continuera à dérouler son projet, son dessein, et il finira par réussir. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul de cette intervention. Mais la vraie question, c'est que va-t-il se passer au-delà de l'indignation c'est inadmissible.
Écoutez, dans un autre registre, Poutine vient de nous annoncer. Alors, parfois ils sont alliés, parfois ils sont adversaires avec Erdogan. Mais Poutine vient de nous annoncer qu'il va réformer la constitution russe pour être élu. Tenez-vous bien, jusqu'en 2036. Jusqu'en 2036. Est-ce que l'Europe a réagi ? Rien entendu.
Non.
Hallucinant.
Oui. Non, mais c'est Patricia Balm, pas de réaction. Il y aura rien. Il y aura pas d'excuses et ça ne changera rien. Et c'est quelque chose. C'est un mouvement profond.
Il n'y aura pas d'excuses, bien entendu. Et de toute façon, Erdogan a envoyé un camouflet à l'Europe en disant, ben voilà, chez moi, je suis le maître, je fais ce que je veux et je vous en... Vous connaissez la suite. Ouais. Et aujourd'hui, il se sent le maître d'une partie de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il tient l'Europe. Quand on voit un acte comme hier, Erdogan est triomphant sur le sujet. Madame von der Leyen s'assoit finalement mollement sur un canapé et Monsieur Charles Michel s'assoit à ses côtés. Donc, tous ces gens cautionnent l'attitude d'Erdogan, qui humilie en permanence l'Europe, qui a humilié le président français. Et personne ne dit rien. Donc, il se sent le maître de cette partie de l'Europe.
Ouais. L'Europe, c'est compliqué. Hein, une des grandes carences de l'Europe, c'est la politique étrangère. Les intérêts des Allemands, des Italiens, des Français ne sont pas les mêmes vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Turquie. On a parlé des Turcs tout à l'heure, des citoyens allemands qui sont originaires de Turquie, qui sont très orthodoxes. Donc, on est divisé. Et ben, c'est une faiblesse qu'il faut prendre en compte. Je constate quand même que la défense européenne, il commence à y avoir des signes intéressants. Un avion en coopération entre Airbus et Dassault. Il y a des projets qui émergent et l'OTAN s'est marginalisé, notamment grâce à Trump, à qui on doit ce recul de l'OTAN dans les faits. Donc, je suis plutôt, sans être très optimiste, je vois que l'Europe a pris conscience de cette grande carence. Malheureusement, cet épisode rappelle cette faiblesse de l'Europe. Bon, je crois que les bilans vont être on est tirés. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jérôme Dubus, qui est un peu dur en disant que rien ne va changer. Effectivement, il est probable que Charles Michel reste à son poste et que Ursula von der Leyen continue à présider la Commission européenne. C'est son deuxième échec, hein. Son premier gros échec, c'est la mauvaise négociation avec les laboratoires pharmaceutiques sur les vaccins.
Bon,
c'était pas sa mission.
Hier, c'est son deuxième gros échec. Enfin, l'histoire avec Erdogan, elle y est strictement
on parle,
pour rien.
Bon, je crois que ces personnes ne sont pas les institutions ni la culture européenne. Et je crois quand même que l'Europe a pris une orientation un peu plus renforcée pour arriver dans quelques années à un peu plus de bon sens d'abord et puis de sens commun à tous sur la politique étrangère. Donc voilà, on est en train d'apprendre. Eh bien, cette étape a été une leçon cuisante face à un État qui nous menace.
Jérôme Dubus, quand vous dites que Ursula von der Leyen n'y est pour rien et dans l'attitude d'Erdogan, je suis tout à fait d'accord avec vous. En revanche, elle aurait fait un acte majeur et fondateur en ne s'asseyant pas et en quittant cette salle. Mmh. Et là, elle aurait montré aussi que finalement, les dirigeants de l'Europe sont forts et qu'ils ne s'en laissent pas compter.
Oui, mais exactement. Patricia, vous avez vu récemment, des dirigeants quitter une réunion ou un rendez-vous parce qu'ils étaient humiliés. Parce qu'ils étaient humiliés. Vous avez des noms à me citer. Moi, je n'ai rien, strictement rien.
C'est dommage,
et l'Europe est d'une assise faiblesse depuis des années.
Oui, mais le courage politique, c'est de savoir dire non aussi.
Oui, je suis d'accord.
Je vous rappelle.
Le courage en politique, c'est quand même une vertu. Hein.
Trump ait affaibli l'OTAN, n'empêche que quand Erdogan a fait un certain nombre de déclarations fracassantes contre Emmanuel Macron, les Américains nous ont dit « Ouh là là, non, surtout pas, on ne va pas vous défendre parce que nous, on a besoin de nos bases aériennes en Turquie ». Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
Mais les frégates françaises étaient en Grèce et c'est elles qui ont chassé les Turcs des eaux grecques. Donc on a quand même su réagir quand il le fallait.
Oui.
C'est important.
Allez, petite pause. Je précise quand même qu'ils ont le même rang.
Il y a un débat sur le rang protocolaire parce qu'apparemment, quand à l'étranger, j'ai lu ça. En tout cas, c'est ce que disent les proches de Charles Michel, c'est que à l'étranger, le président du Conseil européen serait sur un rang au-dessus. Ce qui n'empêche que, par le passé, on a vu en Turquie le président du Conseil européen, le président de la Commission européenne et le président Erdogan ensemble. Donc, de toute façon, ce n'est pas une question
de respect. Mais la faute, on accuse Ursula von der Leyen, ce n'est pas sa faute à elle, c'est la faute à lui.
Absolument.
Elle ne pouvait pas partir. Absolument. Si elle partait, elle amplifiait la fragilité de l'Europe, c'était à lui de partir. Moi, je trouve qu'on l'accuse, elle, un peu vite. C'est lui qui aurait dû se lever, partir, claquer la porte, et elle l'aurait suivi. Mais elle, partant seule, on l'aurait accusé d'avoir montré des divisions.
Non, c'est lui qui devait partir.
On s'arrête, une petite pause et on revient. On va parler d'Édouard Philippe. Que pensez-vous de son retour dans les médias avec un livre ? À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Édouard Philippe publie un livre sur son expérience à Matignon, un livre qu'il a coécrit avec son ami Gilles Boyer. On le voit un petit peu partout sur les écrans de télévision. Quel rôle jouera Édouard Philippe dans la présidentielle de 2022 ? Ça reste encore flou. Moi, j'avoue que j'ai regardé deux ou trois interviews. Je ne comprends pas tout ce qu'il dit, où il veut aller.
Oui.
Je ne sais pas qui veut intervenir.
Non. Personne ne se bouscule.
Ouais, écoutez, pour intervenir. J'ai pas lu son livre, mais je vais le lire avec beaucoup d'intérêt. J'ai dit, j'ai pas lu encore le livre, mais je vais vraiment le lire avec intérêt parce que je sais qu'il a une belle plume et que c'est toujours intéressant de lire des expériences comme celle d'un ancien Premier ministre. Je suis d'accord avec vous, Valérie, je vois pas très bien où il va. Je trouve la séquence, vous avez dû sans doute la voir ou au moins en avoir entendu parler, la séquence sur France 2 où il est invité du journaliste, j'ai oublié son nom, Laurent Delahousse, où il lui est posé la question à Édouard Philippe de savoir si Emmanuel Macron n'était pas en situation de se présenter, est-ce qu'il irait. Et visiblement, les on-dit disent que Édouard Philippe se répand qu'il irait à la présidentielle si Emmanuel Macron n'y irait pas. Et là, il y a une séquence de manière très arrogante. Il répond aux journalistes. Ah bon, j'ai dit ça. Ah non, je crois pas. Ah ben si, peut-être que j'ai dit ça. Alors si je l'ai dit, je l'ai pas dit en public. Enfin, bon, à un moment donné, il revient dans la scène médiatique. C'est pas pour rien. On n'est pas dupe de ça. Et je pense que sans doute construit-il une alternative. Je sais pas s'il est loyal, parce qu'il dit qu'il est loyal et libre en même temps. Je sais pas ce que ça veut dire. Si, je vois à peu près ce que ça veut dire. Mais bon, quand on dit ça, ça veut dire qu'on est loyal à celui qui vous a fait naître, Emmanuel Macron, et en même temps, on est libre de trahir celui qui est aujourd'hui en responsabilité. Emmanuel Macron, en termes de loyauté, on ne peut pas dire qu'il était un exemple vis-à-vis de François Hollande, puisqu'il a...
Après, c'est dans la nature de chacun.
Donc c'est dans la... Et puis on sent effectivement, peut-être, chez un Édouard Philippe, quelqu'un de plutôt droit, plutôt fidèle, peut-être. Mais bon, il y a une espèce de fourberie, effectivement, dans son langage et dans sa manière de parler, de faire la tournée des médias, pour vendre un livre, effectivement. Qui laisse un peu songeur. Moi, je reste convaincu en tant que sympathisant, ou en tout cas ayant des convictions très à gauche, je reste convaincu qu'il est le meilleur candidat pour rassembler la droite, Édouard Philippe. Mais est-ce que d'abord les Républicains en ont envie ? Est-ce que lui n'a pas envie de jouer un autre rôle ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça reste très... très frustrant, c'est-à-dire redescendre dans l'arène politique pour ne rien dire, ni dire du mal, ni dire du bien, savoir s'il va y aller, pas y aller, c'est... Bon.
Oui, c'est un discours Patricia Bannon.
Ce qui était très intéressant dans cette interview de Laurent Delahousse, et vous avez bien fait de parler de cette interview, moi je l'ai regardée, mais vraiment en essayant de décrypter, y compris les gestes, parce que la gestuelle est toujours très, très indicatrice de la pensée réelle de celui qui parle. En fait, Laurent Delahousse, pour être précise, lui demande s'il a bien dit « je ne serai pas candidat, sauf si Emmanuel Macron ne l'était pas ». Et la réponse d'Édouard Philippe, pour être précise aussi, dit « je ne suis pas sûr de l'avoir dit publiquement ». Et là, la réponse, en fait, il joue sur l'ambiguïté, mais ce qui est très amusant, c'est que je rappelle quand même qu'Édouard Philippe est un énarque, il a fait l'ENA. En général, les énarques ont une très bonne mémoire. Et je ne peux pas croire qu'Édouard Philippe ait une mémoire aussi défaillante.
Et vous avez raison, mais vous parliez de gestuelle. Précisément, à ce moment-là, il a une gestuelle, alors, il regarde en l'air, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a une forme d'arrogance.
Absolument, et il se tord les mains.
Oui, il se tord les mains, ça j'ai remarqué aussi. Mains
à plusieurs reprises. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il a été ambigu. Et je ne dirais pas arrogant, parce que ce n'est pas le sujet, mais il a été ambigu et il a joué sur cette ambiguïté. Et je pense qu'Édouard Philippe, en ce moment, doit s'amuser. Il s'amuse sur deux points. La première, c'est qu'il a une vraie popularité, et ça on le sait, il a une popularité qui dépassait largement celle du président de la République à l'époque où il était encore Premier ministre. La question est de savoir si le président de la République s'est séparé de lui pour cette raison de popularité supérieure à la sienne. Maintenant, Édouard Philippe aujourd'hui joue sur l'ambiguïté parce qu'il sait très bien qu'il est populaire à droite, qu'il y a un vide sidéral à droite, qu'il n'y a pas de candidat à droite. Donc, maintenant, il faut aussi se rendre compte que si Alain Juppé avait été élu président de la République, Édouard Philippe n'aurait jamais été nommé Premier ministre. Et ça, on le sait, Édouard Philippe le sait très bien. Et tout l'entourage d'Édouard Philippe le sait très bien. Emmanuel Macron lui a donné une chance.
Il y a même une petite phrase dans son livre, juste pour rebondir, j'en ai pour 3 secondes, mais Édouard Philippe, dans son livre, écrit qu'il aurait murmuré à l'oreille de Juppé que s'il avait été élu président de la République, il suggérait à Juppé de nommer Emmanuel Macron comme Premier ministre.
Comme Premier ministre, absolument.
Oui, enfin bon.
Je termine juste, si vous permettez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, Édouard Philippe a eu une chance inouïe dans sa carrière politique. Cette chance lui a été donnée par Emmanuel Macron, président de la République. Et aujourd'hui, la question est de savoir s'il trahira et s'il sera candidat face à Emmanuel Macron.
Oui, alors...
J'ai du mal à le croire et j'ai du mal à croire qu'il ira jusque-là. Et à ce moment-là, s'il va jusque-là et s'il franchit cette barrière, il sera qualifié de traître.
Sauf si Emmanuel Macron n'y est.
La vie politique française, et notamment la droite, en est pleine. On ne va pas faire l'histoire des anciennes candidature de Balladur, etc., Sarkozy où tout le monde s'est traité de traître. Donc, traître, c'est un qualificatif à un moment donné, puis finalement,
en politique,
après,
ça n'existe pas.
Oui, bon, chacun réagit en fonction de ses intérêts et de la conjoncture telle qu'elle évolue. Donc,
sur l'exercice qu'est en train de faire Édouard Philippe, c'est-à-dire que c'est un homme qui a une certaine crédibilité, qui a une popularité, et là, ce discours qu'il tient aujourd'hui brouille un petit peu.
Moi, je connais bien Édouard Philippe, il a été je trouve un bon Premier ministre dans des conditions assez, assez difficiles. Alors, on dit qu'il a trahi sa famille politique. Je ne suis pas certain, parce qu'en réalité, beaucoup d'électeurs en 2017, dont je fais partie d'ailleurs, ont choisi de droite, assumé depuis des années, ont choisi Emmanuel Macron. Bon. Donc, il y a aussi Bruno Le Maire qui est venu, Gérald Darmanin, etc. Bon. Et puis, surtout, l'électorat, une partie de l'électorat de droite, c'est pour ça que LR se retrouve à 8,5 ou 9 aux élections européennes. Ce n'est pas par hasard. C'est que Emmanuel Macron a su aspirer une partie de la droite et du centre, la droite un peu centriste, effectivement, juppéiste. Bon. Et donc, Édouard Philippe en a profité pour être Premier ministre. Je trouve qu'il a été un bon Premier ministre. Depuis, je trouve qu'il a du mal à trouver sa place. Il est dans la majorité présidentielle, il n'est pas membre de La République En Marche, il n'a pas voulu adhérer à La République En Marche, il est membre de la majorité présidentielle, il n'est plus LR, d'après ce que j'ai compris, mais on parle beaucoup de lui chez LR, effectivement, au bureau politique. Certains nombre de gens disent qu'il pourrait être candidat, LR, bon, peu importe, mais je trouve qu'il a du mal à se positionner, il a du mal à trouver sa place, et ça se sent. D'habitude, il est assez, comme un juppéiste, droit dans ses bottes, il est assez affirmatif, d'ailleurs, il a une certaine autorité, et quand on est Premier ministre, il vaut mieux avoir une certaine autorité. Et là, je le trouve très flou, très hésitant.
Mais il n'a pas besoin, pardon,
pas Jérôme, très engageant. Je suis resté totalement sur ma faim après l'interview de France 2 chez Delahousse. Je l'ai trouvé pas très bon, hésitant, un pied devant, un pied derrière. Il a du mal à trouver sa position. Mais c'est aussi à Macron de lui donner une position. S'il veut qu'il reste avec lui, il faut qu'il lui donne une position.
Ouais. Aurélien Véron.
Est-ce que la créature d'Emmanuel Macron a envie de tuer le père? Moi, je n'ai rien entendu de tel. J'ai juste entendu un écrivain proposer son livre et peut-être espérer un prix, mais je n'ai pas entendu de candidature derrière cet ouvrage. Je rappelle que c'est un homme providentiel qui a une popularité corrélée au fait qu'il n'a pas fait grand-chose pendant son mandat, puisqu'il était sous l'autorité d'un président omniprésent. Un président, un ogre, qui avalait tous les dossiers et allait au carton et au front tout seul.
Comme François Fillon.
Le François Fillon d'Emmanuel Macron. Mais donc, il a été présent sans aspérité, avec une bonne tête, de gendre idéal. Il est convivial, il est chaleureux, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait une chose quand même, ce sont les 80 km/h qu'Emmanuel Macron voulait remettre en question, que Édouard Philippe s'est accroché jusqu'au bout pour défendre, et puis on a eu les gilets jaunes qui ont découlé de cette mesure. Mais bon, c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu sous son propre nom. On lui a transmis le bâton de maire au Havre
il a été élu deux fois, c'est pas vrai. Il a été réélu.
Oui, non, mais lui, il est populaire parce qu'il fait. Non, mais ville est bien gérée. Elle était bien gérée. Il n'y a pas tellement de difficultés quand on est sortant d'une ville bien gérée à sortir majoritaire.
C'était très compliqué.
C'est quelqu'un qui a une bonne popularité, qui est représentatif de quelqu'un de bon homme, de convivial. Je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui soit une locomotive et qui a envie de bouger des montagnes. C'est, en tout cas, il ne l'a pas fait jusqu'ici, donc on attend encore le personnage.
Quant aux réformes, alors là, excuse-moi, Aurélien, excuse-moi, je ne peux pas te laisser dire ça. Quant aux réformes, il a fait toutes les réformes du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il a fait les réformes, d'ailleurs, nous souhaitions, toi et moi, et que la droite n'a pas faites, notamment la réforme du Code du Travail, la réforme de la SNCF.
C'est un très bon monsieur loyal.
C'est Édouard Philippe. Qui l'a porté.
Des auditeurs nous disent les Français ont la mémoire courte, les 90 km, je ne l'ai toujours pas avalé, nous dit Xavier. Il y a eu la gestion des gilets jaunes et puis il y a eu le début de la crise du Covid qui a aussi été géré avec toutes les difficultés qu'on sait par Édouard Philippe.
C'est un style qui tranche avec Emmanuel Macron, et c'est vrai qu'au moment de la crise du coronavirus, quand elle a émergé en France, on ne peut pas dire qu'elle a été extrêmement bien gérée, ça c'est sûr, mais au moins il y avait un registre dans le discours politique d'Édouard Philippe qui n'était pas un discours d'abord, qui n'était pas un discours guerrier, et qui était presque parfois un discours qui essayait de rassurer, d'arrondir les angles. C'est ça, en fait, qui plaît, je pense, dans le style Philippe. Après, sur la politique, entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, franchement, il n'y a pas une feuille de papier de cigarette qui les sépare vraiment. Donc, c'est pas une alternative politique, c'est pas une alternance politique Édouard Philippe. C'est la continuité d'une politique qui est menée, même pas depuis Emmanuel Macron, sans doute depuis François Hollande, avant.
Qui, visiblement, est la seule alternative de droite pour l'instant.
Qui
pas de droite, enfin, qui serait potentiellement
Il faudrait qu'Emmanuel Macron ne soit pas candidat.
Et ça, si au moins François Hollande a eu l'intelligence et d'avoir eu l'intelligence de reconnaître qu'il n'était pas en situation de se représenter, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron,
même en situation, il n'est pas en capacité de le faire. Il a dit qu'il regrette de ne pas s'être présenté.
Non, il a dit qu'il regrette de ne pas s'être présenté.
Il a tout fait pour ne pas avoir été en situation de se représenter. C'est un peu différent.
Il a tout fait pour ne pas l'être.
Oui, il y a aussi Xavier Bertrand, nous dit Myriam. Oui, Patricia Ballon.
Pardon. Là, c'est vrai que la droite se cherche un candidat et il y a un problème de candidature. J'ai ouï dire qu'à une certaine époque, le bureau politique des LR avait pensé à Édouard Philippe pour la candidature à la ville de Paris. Ouais. Et je pense que là, Édouard Philippe a commis une erreur dans sa stratégie et de carrière politique. Parce qu'il aurait accepté d'être maire de Paris. Pour nous, ça aurait été génial qu'il aurait battu Anne Hidalgo, je pense.
C'était
un tremplin formidable pour 2027, parce que c'est la trajectoire de Chirac. Et après avoir été maire de Paris, il aurait pu être naturellement candidat en 2027. Il aurait eu 56 ans en 2027. Et là, c'était... Un destin politique bien tracé. Et je pense qu'il a commis une erreur en refusant Paris.
Mais rien ne nous disait que Édouard Philippe allait gagner Paris. Alors là, moi, je m'inscris en faux là-dessus. J'ai bien vécu cette période-là où, effectivement, Édouard Philippe a été sollicité par Emmanuel Macron pour être candidat. Encore aurait-il fallu qu'il soit candidat unique de LR et de La République En Marche, qui n'était pas du tout acquis, parce que LR ne voulait pas d'une candidature unique, contrairement à ce qui a été dit
LR
tout à l'heure.
Non,
Christian Jacob ne voulait pas faire ce cadeau à Emmanuel Macron, ni à Édouard Philippe. Donc ça, c'était un premier point. Et deuxièmement, être maire de Paris, c'est pas forcément être président de la République. L'affaire Chirac, ça a marché une fois. Bertrand Delanoë a essayé d'être premier secrétaire du PS pour être candidat à la présidentielle. Après, ça a complètement échoué, il s'est viandé. Et Anne Hidalgo est en train d'échouer également. On voit bien que...
Je vous rappelle, Jérôme, que les LR avaient proposé à Édouard Philippe d'être candidat à la mairie de Paris avec l'étiquette LR. Il ne s'agissait pas d'Emmanuel Macron à l'époque.
Édouard Philippe, il n'est pas LR.
Mais attendez, il a été récupéré par Emmanuel Macron, il n'était pas en marche non plus. Donc, ce n'était pas un problème d'accepter de représenter les LR.
En tout cas, on voit
qu'il fallait l'union des électeurs.
Pour rebondir sur ce que Valérie disait au tout début, on voit quand même qu'effectivement, il s'amuse, Édouard Philippe.
Il s'amuse parce que
ses sorties, effectivement, font un peu trembler la Macronie, parce qu'on se dit peut-être qu'il a un agenda qu'on ne connaît pas et qui va nous tomber dessus du jour au lendemain et qui risque de nous poser problème. Et puis, ça fatigue aussi et ça ne m'amuse pas, je pense, la famille de chez les Républicains, où on voit les uns les autres commencer à sortir leurs envies, et à commencer par Xavier Bertrand, même s'il n'est pas chez les Républicains, ça ne doit pas l'amuser de voir qu'un Édouard Philippe, qui a peut-être rassemblé un peu plus, je pense, qu'un Xavier Bertrand. Lui arrivait en concurrence. Donc on sent ça chez lui, une espèce d'amusement dans ses interviews, j'ai entendu sur France Inter, sur France 2, effectivement, il est dans une espèce
cette phrase, on peut conclure avec cette phrase, j'ai été d'une très grande loyauté à l'égard du président de la République, mais je suis aussi d'une très grande liberté de ton et de pensée, je dois m'en servir pour faire vivre un débat que je crois
surtout qu'il a une liberté
indispensable, qu'il a une liberté absolument
de ton. On attend sa déclaration de Rome.
On ne peut pas dire qu'il était très élogieux sur Castex, on ne peut pas dire qu'il était très élogieux. Dans son livre, je disais qu'il avait dit qu'il avait suggéré à Juppé de nommer Macron Premier ministre s'il avait été élu président de la République. Et il suggérait que Jean Castex soit le secrétaire général de l'Élysée. C'est vous dire s'il a beaucoup d'estime et il avait beaucoup d'ambition pour le personnage.
Oui, mais c'est un poste très important. Secrétaire général de l'Élysée.
Bien sûr. Mais c'est sans doute la place où il aurait dû rester.
Macron a été secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Hollande. Il est devenu président de la République.
Oui. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.